Session de philosophie sur la liberté par le Père Philippe à Saint-Jeudard, le 29 août 1988, deuxième conférence.
J'espère que vous avez bien dormi et donc les troupes sont fraîches. On peut commencer à entrer dans ce problème de la liberté. Avant, j'exprime un peu comment nous passerons ces journées ensemble. Vous avez vu l'horaire, c'est pas la peine que j'insiste là-dessus. Vous avez donc les conférences, les cours, des cours. Ce sont des cours. Pendant les cours, vous essayez de comprendre, d'être intelligent, de recevoir ce que vous comprenez très bien, ce que vous ne comprenez pas en raison de certaines expressions ou parce que vous n'êtes pas d'accord, vous le notez. On ne doit pas accepter quelque chose sans le comprendre en philosophie. On n'accepte que ce qu'on comprend. Et donc ce qu'on ne comprend pas, on le note. Pourquoi dites-vous ça? Alors évidemment, si depuis le début de la conférence jusqu'à la fin, vous êtes en état de réaction, très bien. Au bout d'un certain temps, vous direz, bon, il doit y avoir quelque chose de très fondamental qui fait que je n'y pige rien du tout. Alors, ayez de la patience. Premier jour, on a le droit de rien piger. Le second jour, également. Le troisième jour, ça devient plus grave. Ça éclate ordinairement. Bon, c'est pas dangereux. Ceux qui me connaissent savent qu'il peut y avoir des points de friction. Ceux qui ne connaissent pas découvrent ces points de friction. C'est toujours bon de ne pas être d'accord. Ça permet quelquefois de frotter deux intelligences, deux silex, l'un sur l'autre, et de là jaillit une étincelle. Oui, parce que le professeur, c'est ou quelqu'un qu'on suit, et en le suivant, on devient intelligent. Je le suis, donc je pense. Ou bien au contraire, le professeur c'est quelqu'un auquel on n'est pas d'accord du tout, mais il ne faut pas être en opposition affective, ça n'avance pas. Il faut être en opposition intelligente. Alors à ce moment-là, on cherche pourquoi on n'est pas d'accord. Et c'est très intéressant, ça nous oblige de réfléchir. Puisque l'avantage d'un cours, à la différence d'un livre, c'est que normalement le professeur peut répondre. Tandis que le cours, un livre, ça ne répond pas. C'est ça que Platon dit comme différence entre l'écriture et la parole vivante. Un professeur, c'est une parole vivante. Tant qu'il vit, le jour où c'est plus une parole vivante, où il donne son cours, tout fait. À ce moment-là, c'est une écriture. L'écriture ne répond pas, et la parole vivante répond. C'est pour ça qu'après les cours, il y aura les carrefours. Alors les carrefours, on va diviser le groupe en trois. Mais je ne le fais pas maintenant. Sitôt ce cours, ceux qui désirent et celles qui désirent entrer dans les carrefours viendront dans la salle à côté, salle Saint-Thomas. Ici, c'est salle Saint-Jean. Et Saint-Jean est au-dessus de Saint-Thomas. Selon, il y a la hiérarchie. Il n'y a pas la salle des cartes. Il n'y a pas la salle Occam. Il n'y a pas la salle Sartre. Ici, non. Ça ne veut pas dire qu'on les méprise. Non, non. On les écoute. Et on discute avec eux. La salle Saint-Thomas, après. On divisera en trois groupes. Alors ça se divise, paraît-il, différemment chaque année. Une année, j'ai mis les plus jeunes ensemble, les moyens, et puis ceux qui sont d'un âge mûr. On va dire les vieillards. Comme j'ai dit hier que l'intelligence n'avait pas d'âge, je ne peux pas reprendre cette division-là. Alors on peut prendre les commençants, les progressants et ceux qui sont dans la vie illuminative. N'est-ce pas ? On peut prendre ceux qui commencent. On prendra peut-être ça comme division au plan philosophique. Au plan philosophique, on a conscience. Si on fait partie des commençants, on a conscience si quand même on sait déjà quelque chose. Puis on a conscience si on est déjà arrivé à un certain sommet. Alors réfléchissez, tâtez-vous le pouls pour savoir tout de suite, tout à l'heure, numéro 1, numéro 2, numéro 3, que tout le monde ne soit pas dans le numéro 2. Qu'on ait l'humilité de reconnaître. C'est vrai, on est fait partie des commençants. Qu'on ait l'humilité de reconnaître qu'on est déjà un peu illuminé. Il faut beaucoup d'humilité pour reconnaître qu'on est déjà arrivé à un certain sommet. Donc, sitôt le cours de maintenant, on se réunira. Ceux qui désirent, hein, vous êtes libres. On peut très bien préférer ne pas aller au carrefour uniquement assimiler les cours, puis c'est tout. Je vous laisse une totale liberté là-dessus. Mais j'invite, surtout pour ceux qui sont dans les progressants, j'invite, et les commençants, les illuminés, ou ceux qui sont dans la vie illuminative, n'ont plus besoin de carrefour, plus beaucoup. On divisera les progressants en deux. Donc vous êtes libre pour les carrefours. Réfléchissez s'il vaut mieux le prendre ou pas le prendre. Mais une fois que vous l'avez choisi, il faut y tenir. Parce qu'il y a une certaine communauté qui se fait dans un carrefour. C'est très désagréable pour le chef, pour le responsable du carrefour. Il y aura trois frères que j'ai déjà désignés. Seront là tout à l'heure avec vous. Et dans les carrefours, vous posez vos objections, vous posez vos questions, les questions qu'on peut résoudre immédiatement, très bien, les questions qui demeurent, je les reprendrai au deuxième cours, voyez, pour que on puisse progresser ensemble. Je ne peux pas vous demander après le cours, y a-t-il des questions ? J'aime bien ça, parce que je crois qu'en philosophie, on avance dans la mesure où on se pose des questions. On peut très bien ne pas s'en poser, n'est-ce pas ? Quand on est au début, on assimile. Mais quand on se pose des questions, il faut les poser jusqu'au bout. Et c'est bon. Il y a des questions, vous voyez, au niveau des mots, au niveau de l'orientation, au niveau de l'esprit, puis des questions philosophiques, parce qu'on ne comprend pas. Et il faut essayer d'entrer. Puis la méthode philosophique qu'on suit. Vous voyez, les questions, ça se pose à des plans très différents. Donc, les carrefours, c'est très important. Le soir, je ne sais pas, parmi vous, s'ils sont des purs philosophes, si vous êtes des chrétiens, on est mis ici, mais ça dépendra un tout petit peu. On aimait ici, le soir, de transposer le problème philosophique au niveau chrétien, c'est-à-dire faire un peu de théologie. Ça dépend de vous. Alors, j'aimerais carrefour, on pourra poser la question. Mais comme tout le monde ne va pas au carrefour, j'aimerais le soir, puisqu'on est dans un climat religieux et chrétien, peut-être de voir le problème au niveau proprement chrétien. C'est vrai, il y a un problème chrétien de la liberté, et qui est important. Alors si vous voulez, si vous êtes d'accord, ceux qui ne sont pas du tout d'accord, et qui veulent de la pure philosophie, je les dispenserai du cours du soir. Je dis ça pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, qu'on soit bien, bien, qu'on sache ce qu'on fait, quoi. Il y a une très grande lucidité qu'il faut avoir au point de vue philosophique. Je comprends très bien qu'il y en ait qui ne m'aiment pas. Alors, je dirais, les deux cours de la journée seront proprement philosophiques. Et le cours du soir, on essaiera d'entrer dans le problème de la liberté au niveau chrétien. Bon. Commençons tout de suite. J'aime toujours. C'est la méthode aristotélicienne, que je crois être une méthode philosophique. C'est pas la méthode de saint Thomas. Saint Thomas est un théologien. Il faut être net là-dessus. Que saint Thomas assume une philosophie, tout à fait d'accord. Mais saint Thomas est en chrétienté. Et donc, il est un théologien. On va voir ça en problème tout à l'heure. C'est pour ça que la méthode de saint Thomas est une méthode théologique. La méthode d'Aristote est une méthode philosophique. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, je vous le disais déjà hier, mais je reprends pour que nous soyons très au clair là-dessus. Dans le monde d'aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, et que nous faisons de la philosophie, nous devons avoir suffisamment de lucidité pour comprendre que tout en étant chrétien, on peut faire de la philosophie. Et de la philosophie pour elle-même. Recherche de la vérité au niveau philosophique. Je dis ça parce que je crois que c'est important aujourd'hui. C'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux plus faire de philosophie. L'Église catholique a toujours maintenu ça. C'est une constante. Et le Saint-Père actuel, plus que jamais. Et Paul VI, déjà, très nettement. Les papes. Et Vatican I l'a affirmé avec beaucoup de force. L'intelligence humaine est capable, par elle-même, de découvrir l'existence d'un être premier. Notre intelligence, par elle-même, est capable de se poser le problème de la vérité. Notre intelligence n'a pas été touchée par le péché. Vous savez bien, face à Luther, qui disait que l'intelligence était corrompue à cause du péché, l'Église a maintenu le Concile de Trente avec force que l'intelligence humaine n'était pas touchée par le péché. Notre volonté, oui, est touchée dans son exercice. À cause du péché, on est paresseux. Hein, tous. Tous. On a commis des péchés de paresse. Quand on était gosses, pas envie d'aller à l'école. Quand on a grandi, ce défaut a continué quelquefois. La paresse paresse est une conséquence du péché. Et la paresse a fait qu'on n'a pas exercé son intelligence autant qu'on aurait pu l'exercer. Et quand on prend conscience de ça, on veut réparer. C'est pour ça qu'il y a des sessions philosophiques. On pourrait mettre sessions philosophiques pour réparer toutes les paresses humaines. On répare en essayant d'être intelligent pour Dieu. Et pour ses frères, c'est beaucoup plus agréable de parler à quelqu'un d'intelligent que de parler à quelqu'un qui est bête. Et ça arrive du côté de l'homme et du côté de la femme. Et du côté de l'homme, c'est tellement ennuyeux de voir des hommes bêtes. Des femmes aussi, tu vois. Mais c'est encore plus ennuyeux de voir des hommes bêtes. Je dirais, parce que la femme, elle se rattrape par son cœur. C'est que l'intelligence, l'homme, c'est très difficile. Donc, on est intelligent pour Dieu et pour ses frères. Pour que la charité fraternelle soit plus vraie, on a besoin d'être intelligent. On l'oublie trop, ça. La vie commune, quelquefois, est lourde par le manque d'intelligence. Si on était tous très intelligents, mais la vie commune serait merveilleuse. Parler 10 minutes avec un être intelligent, c'est merveilleux. La vie commune, aussi bien du côté du mariage que du côté de la vie religieuse. Si les époux étaient plus intelligents l'un par rapport à l'autre, il y aurait beaucoup moins de divorces. Il y a beaucoup de divorces à cause du manque d'intelligence. Ça, j'en suis sûr. Parce que c'est pas commode. On a cru, épouser quelqu'un de très intelligent. On a cru, ça. Puis au bout de 1 an de mariage, on s'aperçoit terriblement limité. Terriblement limité. C'est terrible de vivre avec quelqu'un qui... On a cru que la communauté Saint-Jean était très intelligente. Puis on s'aperçoit, mais non. Il y en a 1, 2, 3. Terriblement limité. Comme toutes les autres communautés. C'est lourd. Dans l'Ancien Testament, il y a quelques grands prophètes et il y a des communautés de prophètes. Chez les charismatiques, c'est comme ça. Et il y a un grand prophète. Le père de Houm disait, tu verras, le père de Houm, c'était mon oncle, hein, dominicain. On aime beaucoup ici, hein, c'est le grand-père. Tu vas mettre la photo du père de Houy. À côté de Saint Thomas, tu vois. C'est vrai, il y a des traditions vivantes. Père de Houy disait, quand tu prêcheras dans les communautés contemplatives, tu verras, il y en a 1, 2, 3 sur 20 dans un carmel. C'est beau. Il faut bien qu'un des autres, petit collège. C'est très beau du reste. Hein. Et c'est vrai, ça. C'est toujours comme ça, la loi qualitative et la loi quantitative. Alors, on essaie d'être intelligent. Et si on essaie d'être intelligent, on est intelligent. Dites-vous bien ça, hein. Ce que dit saint Augustin, je veux aimer, donc j'aime. Moi j'ajoute, on essaie d'être intelligent et donc on est intelligent. La bêtise, c'est celui qui ne veut plus être intelligent. Et donc on est responsable de sa bêtise. Hein. On On est responsable de la crasse. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans de crasse. Alors quand on dit non, je ne veux plus, je veux chercher la vérité. Celui qui cherche la vérité est intelligent. Et qui veut la chercher. Alors évidemment, celui qui dit, je veux chercher la vérité, mais je m'aperçois que je suis bête, mais n'y pensez pas. Et vous serez intelligent. Pensez pas à ça. C'est très important, ça, vous savez. Ça, c'est l'hygiène de notre intelligence. Celui qui cherche la vérité est intelligent. Intelligent pour soi, intelligent pour les autres. Parce que toutes les petites paillettes d'intelligence, on les prend. Petites paillettes de vérité, on les prend. Bon. La méthode aristotélicienne consiste à faire ceci. Je vous le dis tout de suite, hein. On est philosophe, du moins. On essaie. Être philosophe, c'est quoi? C'est chercher la vérité. Bon, nous cherchons la vérité. Parce que être philosophe, c'est un grand titre. Puis on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Mais philosophe, c'est ami de la sagesse. Donc si on est ici, on est tous les amis de la sagesse. Et on est tous ceux qui cherchent la vérité. Et on cherche la vérité toute sa vie. Ce n'est pas les professeurs de philosophie qui sont les plus philosophes. Non. J'ai côtoyé des professeurs de philosophie. Je vous affirme que parmi les professeurs de philosophie, il y en a beaucoup qui ne sont pas philosophes du tout, qui sont des professeurs. Et le professeur, c'est lui qui donne des cours à des heures déterminées. Et je vais dire, c'est la poule qui pond l'œuf à des heures déterminées. C'est ça, être professeur. De telle heure à 9h30, vous devrez donner un cours. Ouais, je suis bien obligé d'être là. Parce que je pourrais dire, non, non, j'ai pas la grâce ce matin. Peut-être ce soir, ça viendra. Peut-être, mais j'ai pas la grâce ce matin. Non, vas-y, ça viendra peut-être plus tard. Non, on est obligé. Ben, on est obligé parce que on doit. Alors, il faut un acquis. Il faut un acquis. C'est nécessaire. Mais ce n'est pas le professeur de philosophie qui est nécessairement philosophe. Ce n'est pas celui qui a des grades, qui a fait ses licences, qui a fait un doctorat, qui est nécessairement un philosophe. Non, il a passé des examens. La philosophie, c'est autre chose que de passer des examens. C'est un amour. Les Grecs disaient c'est un tuos. C'est l'ardeur du cœur qui recherche la vérité. C'est ça, être philosophe. C'est rechercher la vérité. Et on est philosophe dans la mesure où on a en soi une ardeur de la recherche de la vérité. Et qu'on communique cette ardeur. Le philosophe, il crée un milieu autour de lui de recherche de la vérité. Et on a une ardeur de la recherche de la vérité. Alors, nécessairement, puisque notre intelligence recherche la vérité, quand on est dans la recherche, il faut des sentiers, il faut des voies, méthode, hein, méthodos, odos, en grec, c'est la voie. Donc, il faut tracer des voies. Tracer des voies. Alors, il y a deux grandes voies. La voie, puisqu'on est philosophe au milieu des hommes. Ce que les philosophes, avant moi, ont pu dire sur la liberté. La première voie. Vous voyez, ce que j'appelle une topique historique. Vous allez comprendre tout de suite. La topique historique de la liberté. S'il l'a donné d'une manière exhaustive, on en aurait pour toute l'année. C'est très intéressant, remarquez. On situe. Quel est le premier philosophe qui a parlé de la liberté? Quel est le premier? Parménide a parlé de la liberté. Parce que Parménide, c'est quand même un grand. Oui, notre philosophie, elle dépend de la Grèce. Elle dépend de l'Inde. C'est vrai. Donc, topic historique. On va voir comment on peut la ponctuer. Puis deuxièmement, cette source, elle est très importante, mais ça me donne des opinions. Aristote appellera ça la dialectique. La dialectique. Je vois les opinions diverses. Avant moi, il y a eu des gens intelligents. J'en suis désolé, parce que je ne suis pas le seul intelligent. Alors j'aimerais bien. Avant moi, il y a eu des gens intelligents. Je les respecte. Le philosophe respecte les autres philosophes. Autrement, il n'est pas philosophe. Il respecte tous les hommes qui cherchent la vérité. Pour saint Thomas, tous les hommes qui cherchent la vérité sont des amis. Tous les hommes qui cherchent la vérité sont des amis. C'est très important de comprendre ça. Alors on fait le chemin avec eux. Donc, les opinions. Deuxièmement, l'expérience. Après avoir noué le problème, la dialectique noue le problème. La dialectique montre que le problème est complexe. Des gens intelligents ont dit sur la liberté des choses très différentes. C'est intéressant de voir ça. Et alors on peut rester très longtemps là-dessus. Et on peut passer très vite. Puis, deuxième source, voyez, les deux sources. Les deux sources de la philosophie. Les deux sources de la recherche de la vérité. Première source, topic historique, ce que les philosophes ont pu dire. Et à côté des philosophes, je pourrais prendre, pays. Des poètes qui ont dit beaucoup plus de choses philosophiques que les philosophes. Vous voyez, Camus, c'est un philosophe, en même temps quelqu'un qui est un littérateur, un poète. Je peux lire Camus en poète, je peux lire Camus en philosophe, je peux lire Platon en poète, je peux lire Platon en philosophe. Il y a des artistes. Ah, il y a des statues de la liberté. Ah, oh, tiens. Vous savez bien, c'est quand même quelque chose. Il y a des statues de la liberté. Partie des topics historiques. Toutes les statues de la liberté. Quelle est la première statue de la liberté? Historiquement, ce serait intéressant. À quel moment on a eu le besoin de faire une statue de la liberté? Je sais pas. Vous non plus. C'est un problème très intéressant parce que ça exprime quelque chose. Faire une statue de la liberté, vous voyez, l'art. L'art me dit quelque chose sur la liberté. Les artistes, ce sont des gens qui ont un sens de la liberté de façon très étonnante. Très étonnante. La fable de La Fontaine. Le loup et le chien. La Fontaine est un philosophe. Le loup et le chien. Relisez cette fable de La Fontaine, ou bien récitez-la par cœur. Vous l'avez su dans le temps. Le loup et le chien. Vous l'avez su, vous l'avez récité quand vous étiez tout gosse. Le loup et le chien. Le loup, c'est l'artiste. Tous les artistes sont des loups. Les vrais sont des loups. C'est pour ça que c'est très difficile de mettre un artiste dans une communauté. Je ne dis pas que dans une communauté, ce sont des chiens. Non, 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 non. ce sont peut-être des jaloux. Alors à ce moment-là, on arrive vers la chose. Parce que c'est vrai, il y a des jaloux. Il a regardé quelque chose du loup et son chien. Le chien, vous savez bien le chien, il est dodu. Mais le moine dodu. Le chien. Merveilleux le chien. On lui sert tous les jours, à la même heure, sa pitance. C'est la définition du chien. Il accepte d'être au service de son maître. Et le maître, l'ayant dressé, lui donne tous les jours sa pitance. Alors il est gros. Le loup, il est maigre. Oui, il y a des moines gros et des moines maigres. Des moines zeltes. Alors ça, c'est des loups. Ce sont des loups. Le loup, il est maigre. Il a opté pour la liberté. C'est vrai. Le loup, il a opté pour la liberté. Comme artiste. C'est très extraordinaire. Alors, le chien montre, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être chien, domestiqué. Puis tout d'un coup, le loup dit, tiens, qu'est-ce que tu as à ton cou? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui... Comment se fait-il que le poil est tombé? C'est pas très beau, ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, c'est un collier. Un collier. Vous voyez? L'aliénation qui pousse avec le collier. C'est vrai, l'art dit quelque chose. La Fontaine n'a pas fait de statue de la liberté. Il a abordé le chien, le loup. Pas si bête, hein? Un traité sur la liberté devrait commencer par la fable de La Fontaine, le chien, le loup. En dessous, la statue de la liberté. Quand vous arrivez à New York, la statue de la liberté, elle est figée, la liberté. Elle est venue comme un chien. C'est très curieux. La statue de la liberté. On sculpte la liberté. Et ainsi, vous voyez, la liberté, les philosophes en parlent, les artistes en parlent. Tout ça, ça fait partie de la topique. Les artistes sont quelquefois beaucoup plus philosophes que des philosophes, que des professeurs de philosophie. L'art nous apprend des tas de choses sur l'homme. Puis, il y a les religieux. Les religieux, quand même, s'ils sont de vrais religieux, des contemplatifs. Le philosophe doit être un contemplatif, et donc, il s'intéresse aux contemplatifs. Et les contemplatifs veulent dire quelque chose. Vous voyez, c'est pour ça que le soir, on fera la liberté chez les contemplatifs. Je ne dis pas que l'après-midi, on fera la liberté chez les artistes. Et le matin, avec les professeurs de philosophie, 3 étages. Ça, c'est la topique, la source. Puis, on vient toujours à l'expérience. Le propre d'Aristote, de la philosophie d'Aristote, c'est pour ça que je l'aime. C'est une philosophie de l'expérience. Expérience interne. Expérience externe. Avec l'expérience interne, il peut y avoir des intuitions. Puis l'expérience externe, c'est la philosophie de l'expérience. Et les deux, toujours, toujours. Il ne peut pas les séparer. C'est la philosophie de l'expérience. C'est pour ça, vous voyez, que nous commençons très rapidement un regard, une vision aérienne. Aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire. Et une vision aérienne sur topic historique de la liberté. Alors, c'est ce que nous allons faire en premier lieu. Ensuite, on entrera proprement en philosophie. Tant que je fais une topic historique de la liberté, je suis professeur de philosophie. Pour faire une topic historique de la liberté, il faut connaître un peu les philosophes. Il faut savoir. Et la plupart du temps, les philosophes se contentent de ça. Ils font l'histoire de la philosophie. L'histoire de la philosophie, c'est ce qu'on enseigne en Sorbonne. C'est l'histoire de la philosophie. Donc c'est une topique. En réalité, ils ne font pas de philosophie. Ils préparent, ils disposent. On n'a plus le courage. On n'a plus le thumos aujourd'hui. Aristote reviendrait en Sorbonne aujourd'hui et assisterait au cours des philosophes. Il dirait très bien, messieurs, vous êtes très intelligents. Vous connaissez beaucoup de choses. Vous avez des très bons fichiers. Fichiers matières. Vous connaissez très bien. Vous connaissez un tel. C'est très très bien ça. C'est merveilleux. Mais la philosophie, c'est pas ça. Est-ce que vous êtes à la remorque des opinions? Ou est-ce que le philosophe a le courage de dire « Moi, je cherche la vérité ». Qui a le courage aujourd'hui de dire « Je cherche la vérité » ? Plus personne. Descartes, notre cher Descartes, qu'on verra, est un été noir de la recherche de la vérité. Parce qu'il n'a plus cherché la vérité, il a cherché la certitude. Pas la même chose. Chez Descartes, c'est la recherche de la certitude. Vous voyez, rechercher la certitude, c'est la sécurité. Il faut de la sécurité, c'est évident. Mais ce n'est pas un but philosophique de rechercher la sécurité. J'entre dans la vie religieuse pour la sécurité d'avoir le repas fixé tous les jours, à telle heure. Évidemment, ce n'est pas un repas à la carte. On vous sert un menu tout fait. La sécurité, c'est le chien. C'est plus le loup. Bon, ceci, c'est pour que vous compreniez ce que nous allons faire maintenant, très rapidement, mais quand même, un vol aérien sur ce grand problème de la liberté. Alors voyez tout de suite cette chose qui est très caractéristique dans notre philosophie occidentale. On pourrait faire une topic historique de la philosophie de l'Inde, de l'Extrême-Orient. Ce serait très intéressant. Mais là, je ne suis pas assez compétent pour la faire. Plénière. C'est difficile aujourd'hui de connaître toute la philosophie du monde. Pour Aristote, c'est plus facile. Il y avait moins de monde devant lui. Vous voyez, aujourd'hui, l'information est telle qu'au bout d'un certain temps, on succombe. Moi, je vois ça chez les étudiants. Quand il faut une thèse, on leur donne une thèse. On leur dit, premièrement, informez-vous sur tout ce qui a été écrit là-dessus. Là, si on a pris un sujet comme la liberté, après tout, on peut faire une thèse sur la liberté. On cherche, et puis on voit. 100 livres, 200 livres, 300 livres. On commence à lire. Et on lit vite, parce qu'il y en a 300. Et au bout d'un certain temps, l'information est telle que ça est complètement l'intelligence. C'est terrible. Hein, on arrive à une situation limite de la philosophie, je crois. Parce que l'information est telle. Et si vous n'avez pas cette information, vous direz, oh, c'est très intelligent, mais c'est pas une thèse. Alors une thèse doit être bête. J'ai vu ça, je vous affirme, en séance de faculté. C'est très intelligent, Mais c'est pas une thèse, c'est, y a la méthode, non, il manque certaines informations. Vous n'avez pas creusé ça. Mais est-ce que ces informations apportent quelque chose? Non, rien du tout. Mais vous les auriez dû les noter. Mais puisque ça n'apporte rien. C'est à ce niveau-là. Une thèse, c'est le fruit d'une méthode. C'est pas une recherche de vérité. Et ce sont ceux-là les futurs professeurs de philosophie. C'est quand même terrible. Je vous avise, c'est ce que je vous dis là, c'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe. L'information est telle, c'est pour ça qu'il faut de temps en temps un vol aérien. Ouh là là, ça soulage. Vous savez, quand on vole en avion au-dessus de Paris, on a un regard exhaustif sur Paris. Il y a beaucoup de monde, mais je domine. Un seul regard, oui, c'est très vaste, mais je domine. Il y a peut-être beaucoup de gens qui sont là, c'est possible, des petites araignées, je domine. C'est bon de temps en temps, hein, de reprendre un peu d'oxygène pur. Je sais bien que c'est très climatisé. Je le sais, c'est très conditionné, mais ça fait rien. Un regard. Alors, premièrement, dans une topique historique, je crois qu'il faut premièrement regarder la philosophie grecque. Dans la philosophie grecque, il y a beaucoup d'étapes. Hein. Deuxièmement, c'est ce que nous allons faire du reste, la philosophie face à la théologie. Troisièmement, la philosophie qui reprend son indépendance, la réaction de la philosophie, Descartes. Descartes est un moment très important, point de vue philosophique. Parce que ici, on peut dire recherche de la vérité. Avec Descartes, recherche de la certitude. Descartes, c'est le petit bourgeois de la philosophie. Oui, c'est le petit bourgeois de la philosophie. Monsieur de Descartes, c'est un petit bourgeois de la philosophie. Il a peur de la recherche de la vérité. Alors il nous enferme dans la certitude. Quatrièmement, après Hegel. Je crois que Hegel, de Descartes à Hegel, il y a une continuité. Ça, c'est très net. Après Hegel, c'est la diaspora. Il y a quatre grands moments. C'est très curieux, hein. Et c'est important de saisir ces quatre grands moments. Et on peut donner autre chose. Je vous passerai, pour ceux qui intéressent, Merleau-Ponty a ponctué toute l'histoire de notre philosophie occidentale à sa manière. Je peux la ponctuer à la mienne. Une topique historique implique nécessairement un certain ordre. Vous voyez ? Là, je donne un certain ordre. Il y a un ordre dans cette topique historique. Ce n'est pas simplement des dates. Non. Il y a quelque chose de particulier. Dans la philosophie grecque, ordinairement, on dit pré-socratique, Socrate, le grand sommet, Aristote, et après Aristote. C'est curieux, hein ? Il y a un petit peu cette chose-là. Vous voyez, pré-socratique, ça reste vrai. Aujourd'hui, on n'aime pas dire pré-socratique. On aime mieux dire les philosophes de la recherche. On n'a que des éléments. Le seul qui donne, auquel on a, c'est le poème de Parménide. Ça, le poème de Parménide est devenu très important avec Heidegger. Il était déjà très important avant, hein, mais Heidegger lui donne une valeur extraordinaire. C'est beau le poème de Parménide. faire une session philosophique uniquement sur le poème de Parménide. Ça vaudrait la peine. Parce que c'est grand. La recherche de la vérité. C'est la recherche de la vérité. Et Parménide montre bien que cette philosophie, cette recherche de la vérité, ne se fera parfaite que lorsqu'on rencontrera la déesse. Ah, la déesse. C'est la déesse qui parle à Parménide. Vous voyez, on est en face d'une philosophie qui s'ouvre à une révélation. On marche vers une révélation. Et qu'est-ce que dit la déesse ? Il est. Et il est impossible qu'il ne soit pas. C'est la grande révélation de l'être. C'est très beau de l'être, ce qui est. Il est. Sans faire de syncrétisme, faisons grande attention, sans faire de syncrétisme, vous avez quelque chose de très analogue à la révélation faite à Moïse. Très curieux. Je suis celui qui est. C'est quand même très étonnant. Il ne faut pas faire de syncrétisme. Mettez Parménide, Moïse. Moïse demande à Dieu, à celui qui lui parle, son nom. Son nom. Je suis. C'est tellement important, ça. Vous voyez, c'est quand même très beau et très fort, ça. J'allais presque dire que la découverte de l'être dans la philosophie grecque est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de sacré. Il y a quelque chose de sacré. Pourquoi ? Parce que l'intelligence ne vit comme intelligence. Quand elle découvre l'être. Or, le nous, l'intelligence, c'est quelque chose de divin en nous. Et c'est vrai que le premier moment de la découverte de l'être, ce qui est, reste lié à une révélation. La révélation de la déesse. On ne sait pas très bien. Parménide ne précise pas. On a interprété Parménide de multiples manières. Parménide recherche la vérité. C'est très curieux dans Parménide. Hein. Chercher la liberté. Non. Non. Pour Parménide, celui qui recherche la vérité est libre. Condition sine qua non. Donc, c'est pas la peine d'en parler. Qu'est-ce qu'on cherche ? On doit avoir tout l'effort. Le thumos, hein, c'est lui qui parle du thumos. Ce thumos. Hein. Ce thumos, cette ardeur dans la recherche de la vérité, c'est indispensable. Si on n'a pas ce thumos, si on n'a pas cette ardeur dans la recherche de la vérité, impossible. Vous voyez, au fond, il y a quelque chose de sportif. Dans la recherche de la vérité. Quelque chose de sportif. Si on n'a pas ce thumos, pas la peine. Il faut cette ardeur. Parménide, donc, c'est quand même un lieu très important, Parménide. Et puis, je mettrai tout de suite Platon après. Mais Platon, inséparable de Socrate. Platon n'aurait pas existé si Socrate n'avait pas existé. Socrate, Platon, Aristote. Une trinité, là. Une trinité grecque. Il ne faut jamais les séparer. Jamais les séparer. Et surtout pas les regarder comme on fait aujourd'hui, dialectiquement. On met une opposition entre Socrate et Platon, entre Platon et Aristote. Alors qu'ils sont amis, Platon et la vérité, je les aime tous les deux, dit Aristote dans l'éthique, mais la vérité plus encore. Ça, c'est très beau. Ça, ça donne le climat. Aristote aime Platon. On ne peut pas aimer Aristote si on n'aime pas Platon. Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'idéaliser Platon, il est déjà assez idéal. Mais il faut comprendre que Platon, ben oui, c'est quand même un chercheur. Il y a un chercheur de la vérité, pas de la certitude. On aurait dit à Platon qu'il fallait chercher la certitude, Platon aurait souri. Mais non, mais non, mais non. Le philosophe aime le risque. Comment il n'est plus philosophe? Le philosophe est celui qui cherche tout le temps. Il cherche tout le temps la vérité. Il veut être possédé par la vérité et ne pas posséder la vérité. Alors c'est vrai, Socrate, est-ce que Socrate cherche la liberté? Non. Socrate ne se présente pas du tout comme un chercheur de vérité, de liberté. Chercheur de vérité. Connais-toi toi-même. Alors c'est le premier moment, vous voyez, c'est le premier moment de la connaissance de soi. Alors ça, c'est très important. Connais-toi toi-même, mais connais aussi les dieux. Il faut se connaître et connaître les dieux. Autrement dit, cette recherche de Socrate, Platon, Aristote, se fait dans un climat de tradition religieuse. Voilà la différence. Pour Parménide, la philosophie, la recherche de la vérité s'achève dans la révélation. Il y a un dépassement de la justice. Tant qu'on reste au niveau de la justice, donc justice, c'est l'aspect politique. Tant qu'on reste au niveau de la justice, on n'atteindra pas l'être. Il faut dépasser les portes de la justice. Ils montent les portes de la justice, le symbolisme des portes de la justice. Dépasser les portes de la justice pour que la déesse vous révèle l'être. Ce qu'est. Mais il y a tout un aspect mythologique, hein, symbolique, c'est sûr, c'est très beau. Au fond, avec Socrate, Platon et Aristote, on sera en face, dans un climat de tradition religieuse, on sera en face, ce que Heidegger aime de dire, le mutos et le logos. Le logos, c'est la pensée, et le mythe, le symbole, qui reste très lié. Et au fond, on peut dire que toute la pensée d'Aristote, c'est d'essayer de découvrir l'intelligibilité du mythe. Alors, avec Platon, commence vraiment, on dirait dans un langage moderne, de thématiser la liberté. La liberté est recherchée avant, mais on ne s'arrête pas. Ce n'est pas un objet de recherche philosophique. Je crois que c'est avec les sophistes, vous voyez, climat de tradition religieuse, climat des sophistes. C'est très important, ça. Surtout aujourd'hui, on remet très en lumière les sophistes. Et on aime de considérer que les sophistes, ce sont des inventeurs merveilleux de la subjectivité. Et c'est vrai. Ce sont les premiers philosophes de la subjectivité. Les sophistes, c'est pour arriver au pouvoir. Donc, on prône la rhétorique, les campagnes électorales. C'est sophistique, les campagnes électorales. On ne dit pas, on ne cherche pas la vérité. Un homme politique qui cherche la vérité, mais non, c'est impossible. Il doit bluffer, mentir, hein, pour arriver au pouvoir, c'est sûr, c'est les sophistes. On est en plein dedans. C'est très curieux, hein. La démocratie grecque va naître dans un milieu sophistique, avec la rhétorique. Vous savez, les sophistes sont si intéressants aujourd'hui. Très intéressants, les sophistes, à cause de ça. Et je crois que la plantée de Socrate, de Platon et d'Aristote se fait entre ces deux climats. Le climat des traditions religieuses et le climat des sophistes. Les sophistes luttent contre ces traditions religieuses. Les premiers athées sont des sophistes. C'est les premiers. Les premiers qui luttent contre les traditions religieuses sont les sophistes. Il faut les rejeter. On rejette les sophistes. Les sophistes, ça ne va pas. Dis-moi, on rejette les traditions religieuses. On rejette les dieux. Et on veut que l'homme ait son autonomie parfaite. Sa liberté. Je crois en ça. Sa liberté. Mais la liberté politique. Tout de suite, hein. Liberté politique. C'est ça qu'on va chercher, avant tout, au-dessus de tout. Face à ça, Socrate, lui, cherche la connaissance de la vérité. Et Platon nous donnera quelques aspects sur le point de vue de la liberté. Je vous lis certains textes, simplement, parce que c'est intéressant de saisir dans le Phédon 64a. C'est comme on cite, hein. Donc, dans le Phédon, Platon, le Phédon. Il n'y a pas beaucoup de textes sur la liberté dans Platon. Phédon 64a et suivant. Je vous lis ce petit passage très simple. Laisse-le dire, reprit Socrate. À vous cependant, qui êtes donc mes juges, je tiens maintenant à vous rendre des comptes, à vous dire mes raisons de regarder l'homme dont la vie a été en réalité employée à la philosophie comme plein d'une légitime assurance au moment de mourir. Lui qui a bon espoir d'avoir à soi, là-bas, des biens très grands, lorsqu'il aura trépassé. Comment donc en peut-il être vraiment ainsi? Voilà, Simmias et Cébès, ce que je m'efforcerai de vous expliquer. J'en ai bien peur, en effet. Quiconque s'attache à la philosophie, au sens droit du terme, les autres hommes ne se doutent pas que son unique occupation, c'est de mourir et d'être mort. Toute la philosophie de Platon. La mort, c'est l'épreuve du philosophe. Dépasser la mort. Et c'est dans le dépassement de la mort qu'on trouve la libération. Platon, c'est la philosophie de la libération. C'est ça, c'est la philosophie de la libération. Se libérer de cette contingence terrible que représente notre corps. Et par notre corps, la communauté. Si donc c'est la vérité. Vous voyez, c'est très beau de voir cette définition de la philosophie. Hein. Quiconque s'attache à la philosophie au sens droit du terme, les autres hommes ne se doutent pas que son unique occupation, c'est de mourir et d'être mort. Quotidien morior. Tous les jours je meurs. C'est la définition du chrétien. C'est la définition des philosophes chez Platon. Petite rencontre. Si donc c'est la vérité, il serait assurément bien étrange de n'avoir nulle autre chose à cœur que celle-là pendant toute la vie. Puis, quand cette chose arrive, de s'irriter à propos de ce que jusqu'alors on avait à cœur et de quoi l'on s'occupait. Si le problème du philosophe, c'est de mourir, quand la mort arrive, pourquoi vous irriter? Je me souviens de cette vieille grand-mère qui avait 90 ans, qui me disait « Père, j'ai une question à vous poser. Est-ce que j'ai le droit de dire à mon médecin « Laissez-moi mourir de ma belle mort » puisque je suis chrétienne. Si je suis chrétienne, je suis tout orienté vers le ciel. 90 ans, tous mes enfants ont leur foyer, ont leur situation. J'ai des petits-enfants, mais ils ont leurs parents. Le propre du chrétien, c'est d'aller vers le ciel, vers la patrie. Pourquoi, lorsqu'on est tout proche, on essaie de mettre tous les verrous possibles pour nous empêcher d'entrer dans le ciel? Et les médecins mettent tous les verrous possibles pour empêcher d'entrer dans le ciel. Est-ce que j'ai le droit de dire aux médecins, ne mettez pas de verrous? Moi, je veux entrer dans le ciel. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je veux dire, je comprends que vous avez le droit. De sorte que quand elle est tombée malade, peu de temps après, elle a dit au médecin, laissez-moi mourir de ma belle mort. Le médecin dit, mais non, j'ai pas le droit. Je vous le demande. Le psaume, c'est déjà 80 ans, c'est un exploit. 80 ans, c'est un super exploit. Alors quand vous êtes dans le super exploit, vous avez le droit. Une religieuse à 90 ans a le droit de dire, ne m'opérez pas, laissez-moi mourir de ma belle mort. C'est vrai, c'est très juste, mais tous ces verrous, vous voyez, on voit la pensée de Socrate. C'est très joli. Ça, c'était une chrétienne qui ne connaissait pas Socrate. C'est exactement la même chose. Il y a là quelque chose de très beau, très grand. Vous voyez? Et c'est là la liberté souveraine.